Musicopolis. Début du Premier Empire, Paris. Nous sommes entre 1804 et 1807 à Paris. Le calme est revenu dans la capitale après les grands bouleversements de la dernière décennie du XVIIIe siècle. La vie culturelle, qui n'a pas cessé, a un peu changé de nature. On fait beaucoup de musique dans les salons, encore plus peut-être qu'avant la Révolution. Parmi les plus intimes de ces salons, celui de Madame de Montgeroux, Hélène de son prénom. La marquise de Montgeroux a 40 ans en 1804. Elle a vécu, durant les 15 dernières années, des moments particulièrement agités. Émigrée quelque temps, elle a été arrêtée par les Autrichiens. Son mari est mort en détention. Libérée et revenue à Paris, elle a été arrêtée à nouveau. Libérée grâce à Bernard Sarrette, le fondateur du conservatoire, qui l'engage dans son établissement comme professeur de piano de première classe. Remariée, puis divorcée, elle est mère d'un jeune garçon d'une dizaine d'années. Pour lui, elle se consacre à reconstituer sa fortune défaite pendant la Révolution. Hélène de Montgeroux, née de Nervaux, gardera toute sa vie le nom de son premier mari, le marquis de Montgeroux. Elle l'a épousé à l'âge de 20 ans et c'est sous son nom qu'elle s'est fait connaître comme pianiste. Alors bien sûr, pas pianiste professionnelle. En tant que faisant partie de la noblesse, elle ne peut en aucun cas se produire sur une scène publique, ni recevoir de l'argent pour jouer, sous peine de déroger. Et bien sûr, en tant que femme, toutes ses activités lui sont encore plus interdites, cette fois sous peine d'apparaître comme une personne de mauvaise vie, qui sait. Et donc, si Madame de Montgeroux s'est fait connaître comme pianiste, c'est dans les salons. Là, une jeune femme bien pouvait jouer déjà avant la Révolution. C'était même une qualité recherchée chez les dames que de pouvoir montrer son talent devant les invités. Pour cette raison, d'ailleurs, elles avaient droit à des leçons de musique. On connaît ainsi plusieurs professeurs à la jeune Hélène. Le premier semble avoir été Nicolas Hulmandel, pianiste et compositeur alsacien, qui a eu grand succès en Europe et plus particulièrement à Paris, où il a joué lui aussi dans les salons et donné des leçons aux personnes de l'aristocratie. Thank you. les leçons de Hulmandel ont certainement été très profitables à Hélène de Montgeroux, et d'autant plus qu'ayant lui-même travaillé avec Carl-Philippe Emmanuel Bach, il a pu lui faire connaître la musique de son maître et même celle du père Bach. Un détail qui n'a l'air de rien, mais qui est important. En particulier parce que la jeune Hélène, future marquise de Montgeroux, n'a pas reçu de leçons d'écriture musicale ni de composition. Et que c'est donc dans l'étude des grands maîtres qu'elle a puisé ses premiers enseignements en la matière. Ce qui s'entendra par la suite dans son œuvre, puisqu'elle intégrera même 3 fugues à son monumental cours complet pour l'enseignement du pianoforte. C'est bien un signe de son époque qu'Hélène de Montgeroux n'ait pas reçu de leçons d'écriture musicale. Les femmes n'en recevaient pas, sauf si elles étaient elles-mêmes filles de compositeurs. C'est le cas par exemple de Lucille Grétry, fille d'André Modeste Grétry, et qui à l'âge de 14 ans faisait représenter à Paris un opéra écrit sous la supervision de son père. C'est le cas aussi de Florine Dezède ou de Julie Candeil, qui ont elles aussi reçu leur formation au sein de leur famille musicienne. Mais généralement, les jeunes filles, même celles qui avaient reçu une bonne formation, n'allaient pas jusqu'à la composition, puisqu'elles étaient jugées inaptes par nature à la création. En revanche, en tant qu'interprètes, elles étaient tout à fait reconnues. Thank you. Hélène de Mongeroux a été très tôt réputée comme une grande improvisatrice. Un talent qu'on accordait aux musiciennes. Talent qui lui a peut-être sauvé la vie. On raconte que lorsqu'elle a comparu devant le comité de salut public, elle aurait improvisé sur la Marseillaise d'une manière éblouissante, ce qui lui aurait valu le salut. Mais quant à écrire de la musique, en particulier des pièces très structurées comme des sonates, là, il valait mieux prendre les conseils d'un professionnel. Cherchant à se perfectionner en écriture, Hélène de Mongeroux s'est adressée vers 1800 à un jeune compositeur né en Bohême, mais formé en Allemagne et installé depuis peu à Paris, Antonín Reicha. Celui-ci, pendant plusieurs années, avait pris le temps de réfléchir à l'enseignement de la composition et il commençait une carrière de professeur qui allait le mener 20 ans plus tard au Conservatoire de Paris. Les musicologues qui travaillent sur les partitions de Madame de Mongeroux on notait une différence très nette entre ses premières œuvres, celles des années 1790, et la série de sonates publiées entre 1804 et 1807, dont l'opus 5 numéro 3, sa 9e et dernière sonate. Thank you. Nous savons par un certain nombre de mémoires, fin 18e et début 19e, que Madame de Mongeroux se faisait entendre dans les salons. Ils sont nombreux à cette époque et à défaut de concerts publics, ils permettent d'entendre de la musique. Les invités sont autant des gens du monde que des artistes ou des scientifiques de renom. Ceux qui font la musique sont soit des amateurs doués, soit des professionnels qui honorent de leur présence l'assemblée des écouteurs, toujours prêts à les applaudir. C'est dans le cadre de réunions de ce genre que les musiciens ont l'occasion de faire entendre les nouveautés de leur répertoire. Le baron de Trémont, qui tient lui-même un salon très actif à partir de 1798 et dont l'activité se poursuit jusque tard dans le 19e siècle, a reçu par exemple les grands violonistes du temps, Pierre Rode et Pierre Bayot. « Rode, écrit-il, fit entendre le premier, chez moi, les quatuors de Mozart. Il les jouait admirablement. Croirait-on que Bayot, qui l'accompagnait, fit longtemps la grimace ? Quelques années après, il en était enthousiaste. » Les artistes eux-mêmes tiennent souvent salon. On parle par exemple de celui des peintres Vigée Lebrun, Giraudet, Gérard. Hélène de Mongeroux, elle aussi, tient le sien, le lundi. Sans doute assez intime, du moins difficile d'accès, mais pas moins brillant pour autant. Un témoin nous dit « Les lundis de Madame de Mongeroux étaient renommés. On n'y était admis que par grande faveur. Le duc de Bassano ou Giraudet s'y rencontrait avec Grétry, Cherubini, Méhul, Kreutzer, Rode et Bayot. » On voit là tous les compositeurs et musiciens qui faisaient le paysage musical de ce début de 19e siècle à Paris. Cherubini lui-même envoie un mot à Madame de Mongeroux pour lui demander comme une faveur de bien vouloir inviter un de ses amis, amateur de musique passionné. Thank you. On ne sait pas, faute de documents, en quoi consistaient les lundis d'Hélène de Mongeroux. Néanmoins, maintenant que ses pièces pour piano commencent à être enregistrées, on peut imaginer un peu sa personnalité pleine de facettes et imaginer comment elle recevait. Elle avait une grande sensibilité et sa musique regarde autant vers le passé que vers le futur. Elle rend hommage aux grands maîtres anciens avec ses fugues, elle est bien dans le présent du classicisme avec ses sonates et elle voit vers l'avenir avec des pièces déjà très romantiques. Le baron de Trémont, grand connaisseur, la replace parmi les musiciens de son temps. Toute la direction du talent de Madame de Mongeroux était portée vers l'expression et l'art de chanter. Aucun des pianistes ses contemporains n'a appliqué comme elle ce principe. Aucun n'a eu un aussi grand volume de son, ni n'a joué l'adagio avec une aussi profonde expression. Et cette méthode, appliquée aux morceaux de facture, la rendait également supérieure dans l'exécution des fugues de Bach et de Handel. Sa grande prédilection était les adagios de Mozart. Elle rendait pleine justice aux mélodies de Beethoven. Madame de Mongeroux a été le premier talent de son époque qui a vu briller successivement Hermann, Steibelt, Dussek, Cramer, etc. Le troisième mouvement presto de la 9e sonate pour piano d'Hélène de Mongeroux, opus 5 numéro 3, Edna Stern sur un grand piano Pleyel et compagnie de 1860 du Musée de la Musique à Paris. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Claire Lagarde pour la réalisation et Guillaume Ledu pour le mixage.